Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Laetitia.
Sacha Mitchell, journaliste à Courrier International, notre partenaire. Alors on fait un premier arrêt ce matin en Turquie où les incendies font rage.
Look at the sheets of flame. This is what we're up again. I think probably we're going to have to cut short.
Cette voix, c'est celle d'Alex Crawford de la chaîne britannique Sky News au cœur des incendies. La journaliste est obligée d'interrompre son direct cerné par les flammes près de la ville de Bodrum. Plus de 180 départs de feu ont été enregistrés en 10 jours en Turquie, des incendies meurtriers qui ont aussi entraîné l'évacuation de nombreuses zones touristiques. Pour l'opposition turque, les causes de ces immenses feux sont claires. Elles s'appellent réchauffement climatique d'une part et manque de moyens alloués à la lutte contre les incendies d'autre part. Mais la presse gouvernementale, elle, eh bien, elle préfère regarder ailleurs. Qui brûle les forêts, interroge ainsi le quotidien Yenis Afak avant d'évoquer un sabotage. Pour preuve, eh bien le fait que le feu prenne en même temps à des endroits différents. Rapidement, transparaît le coupable idéal, la guérilla séparatiste kurde du PKK, sans que le journal ne donne davantage d'éléments qui l'incrimineraient. Le son de cloche est d'ailleurs le même dans le journal Türkiye, proche du parti d'extrême droite MHP, allié du président Erdogan. Le PKK vit sa période la plus sombre, écrit Türkiye. Il est défait à l'intérieur de la Turquie, pourchassé en Irak et en Syrie. Il en est donc réduit à perpétrer ces incendies.
Et le problème, Sacha, c'est que ces accusations ont des conséquences en fait pour la minorité kurde.
Le hashtag « c'est le PKK qui met le feu » a été partagé plusieurs centaines de milliers de fois sur le réseau social Twitter. Et dans la vraie vie, comme on dit, les populations des régions touchées par les incendies se sont mises à traquer les civils kurdes désignés comme incendiaires présumés. Et ce climat de paranoïa, il amplifie le racisme envers la minorité qui était déjà en hausse dans le pays et qui était symbolisé par l'assassinat de 7 membres d'une même famille à leur domicile le 30 juillet dans la ville anatolienne de Konya.
On prend la direction à présent de la Suisse où un journal en ligne s'interroge à propos des utilisations de l'ARN messager qui, au départ, sont montrées comme une nouvelle technologie.
Quand une technologie médicale permet de vacciner contre le Covid, mais aussi de traiter le cancer.
Cette technologie, c'est l'ARN messager.
Là, ça va très probablement révolutionner la recherche dans le domaine des vaccins.
Des années de recherche sur le VIH, des échecs. Beaucoup pensaient alors qu'un vaccin ARN ne marcherait jamais. Le Covid change la donne.
Mais cette technologie novatrice, est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi être utilisée dans le domaine du dopage? La question, elle taraude le site Heidi News, spécialisé dans les sujets de santé. Alors pour schématiser, dans les vaccins de Moderna et de Pfizer-BioNTech, l'ARN messager de synthèse, c'est une sorte de duplicata de l'ADN, eh bien, elle induit la production de protéines qui déclenchent l'immunité contre le virus. Alors le problème, c'est que l'EPO ou les hormones de croissance qui sont utilisées dans le cas du dopage sportif, eh bien, ce sont aussi des protéines qui peuvent être induites par des ARN messager. Pour en savoir davantage, Heidi News a interrogé Olivier Rabin, directeur exécutif science de l'Agence mondiale antidopage. Selon lui, le risque existe. Un groupe d'experts est d'ailleurs dédié au suivi et à la détection du dopage génétique. Mais jusqu'à présent, aucun cas n'a été recensé, notamment du fait des doses très importantes qu'il faudrait injecter dans le corps des athlètes pour obtenir des effets sur la performance.
Et donc des risques pour la santé.
Et oui, sans compter que d'après Olivier Rabin, il est possible de faire la différence grâce à des tests entre les protéines produites naturellement et celles induites par des ARN messagers de synthèse. Des doutes subsistent aussi quant à l'efficacité même d'un tel dopage, puisque l'organisme humain, il est bien fait, il a tendance à s'auto-réguler. Comme l'explique Olivier Rabin à Heidi News, si vous avez trop d'une protéine artificielle, l'organisme diminue souvent la production de la protéine naturelle. Et ça s'annule. Alors, ça ne veut pas dire que la technologie n'intéresse pas les athlètes et leurs entraîneurs. L'Agence mondiale antidopage a déjà reçu plusieurs alertes à travers son réseau d'informateurs, confie le dirigeant. Mais rassurez-vous, au cœur de cet FT sportif, s'il y a une chose à retenir, c'est que le recours à la technologie ARN messager n'est pas encore au point. Dans ce domaine, très peu de risques donc de voir un scandale de dopage génétique éclater à court terme.
À court terme donc. Et pour terminer, Sacha, on passe nos relations sociales à la loupe. Alors c'est l'occasion de faire le point cet été, après des mois passés parfois sans voir les copains à cause des restrictions.
Oui, c'est une véritable autopsie de nos rapports humains que nous offre l'anthropologue britannique Robin Dunbar à l'occasion d'un article publié dans le New Scientist. Saviez-vous par exemple qu'il était, d'après ses recherches, impossible d'entretenir une relation digne de ce nom avec plus de 150 personnes? Notre cerveau, il ne peut pas faire mieux, c'est comme ça. Alors, on ne consacre pas la même énergie à chacun, bien sûr, et le chanteur Stéphane Eicher le dit très bien.
Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Comme toi.
Nos relations, en fait, elles s'organisent en cercle concentrique, avec généralement au centre les membres de la famille, puis dans un deuxième cercle les amis proches, et ainsi de suite. Alors, d'après Damba, au total, on passe environ 20% de notre temps à sortir, à boire un coup, à déjeuner dans un contexte social. Si on veut le traduire en durée, c'est l'équivalent d'à peu près 3h30 par jour.
Alors, ça paraît beaucoup dit comme ça.
À première vue, c'est vrai. Mais si on veut être tatillon, ça ne fait qu'une minute 45 par personne. Bon,
ah oui.
En réalité, ça marche pas comme ça. Environ 40% de ce temps de sociabilité est consacré aux 5 personnes de notre cercle le plus proche. Ensuite, 20% de notre temps aux 10 membres du cercle suivant. Pour les 135 derniers, en réalité, il ne reste bien souvent pas grand-chose. Alors, à noter que cette analyse de Robin Damba, elle se veut presque universelle. Le Britannique s'appuie sur des études menées en Afrique de l'Est, en Asie, en Océanie, et même sur les comportements observés via les réseaux sociaux. Allez, une dernière règle pour la route, et elle concerne la route, justement. C'est la règle des 30 minutes, soit le temps qu'on est prêt à mettre pour rejoindre un ami. Alors, à pied, en voiture, peu importe. Au-delà, le fait est qu'on voit moins la personne en question et on a même tendance à moins lui téléphoner, comme si on savait inconsciemment que le manque de contact physique contribue à distendre les liens.
Voilà qui est dit, un article à retrouver dans Le Courrier International, toujours en vente, où l'on apprend aussi que le sexe, l'âge et même les habitudes en matière de sommeil déterminent la nature et la robustesse de nos amitiés. Tiens donc. Merci Sacha Mitchell.
Merci Laetitia.